Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Gilbert demande, que se passe-t-il?
Oh, monsieur, une très mauvaise nouvelle. Madame vous attend. Madame, votre mère vous attend au salon.
Inquiet, Gilbert monte au salon.
Il entre.
La mère est en chemise de nuit, lui tend les bras. Il accourt à elle. Elle lui dit, ton père est mort. Gilbert reçoit un coup au corps. Elle lui dit, il a été assassiné. Et il lui raconte tout, ce que lui a dit le commissaire. Il lui dit, je ne comprends pas. Et lui dit, il n'y a rien à comprendre. Tu es. Reste avec moi. Demain, je dois aller à la police. Voir le corps. Il lui dit, oui mère, tu peux compter sur moi. Il reste près de sa mère, la tête vide, assommée par cette nouvelle si terrible. Son père, tué par la mère de Nathalie, sa future belle-mère, qui elle-même a été tuée. Il pense à Nathalie, il se dit qu'elle doit être encore plus seul et peiné que lui. Il aimerait la réconforter, mais ne peut pas. sa mère d'abord. Serait pas honnête de consoler la fille de l'assassin de son père en abandonnant sa mère? Quelle horreur! Ne cherche même pas à savoir le pourquoi de ce crime. Elle était folle. Elle ne pouvait qu'être folle. Tuer le père de son gendre, l'homme le plus puissant et riche du monde, qui malgré la différence de fortune, a la bonté d'accepter dans sa famille une fille, Nathalie, on ne tue pas pour un acte pareil, à moins d'être fou. Il passe la nuit avec sa mère, à la servir, lui faire du thé, la consoler. Lendemain matin, ils vont tous les deux au quai des Orfèvres déposer et entendre la conclusion. La mère dit que son mari lui avait dit qu'il dînait en ville, mais rien d'autre. Et Gibert était au courant de rien. La police pense comme Gibert que c'est un acte de folie. Que ce ne peut être qu'un acte de folie, vu la bonté du père d'accepter comme belle-fille Nathalie. Puis ils sont allés à la morgue pour reconnaître le corps. On leur a dit que vu la victime, ils peuvent prendre le corps. Gibert a téléphoné à la clinique Jeune Touriquin pour qu'ils viennent le chercher et faire la toilette à la clinique. Le préfet de police a été informé de la nouvelle tôt ce matin. Cela l'inquiète. C'est un grand homme sec, cheveux châtain, moustache, costume marine. Il donne l'ordre que la nouvelle reste secrète et décide d'en parler d'urgence au ministère de la Justice. Et lui va en parler au président de la République, Marc. Et dans le bureau du président de la République, à l'Élysée. Il lui a apporté le dossier. Marc le lit et dit: c'est très grave. La France est en danger. Si les Américains le savent, nous sommes perdus. La France dégringolera. Le franc avec. Et c'est la fin de nous. Cette nouvelle doit rester secrète. Il faut que le conseil d'administration se réunisse et élise tout de suite un président. Une fois que la chose est faite, on annonce la mort et en même temps le nouveau président. Comme ça, personne ne peut plus rien. Faites vite. Et qui est le second du groupe déjà? Lui dit un dénommé Harold. Marc lui dit: dites-lui de réunir le conseil de l'administration le plus vite possible. Miss demande: et la jeune fille de la criminelle? Marc lui dit: mettez-la aux arrêts pour qu'elle ne dise rien. Après, nous verrons. Allez, vite. Ah! Et le corps? Cachez-le, au secret. convoque dans son bureau Harold. Lui dit la nouvelle qu'il connaît déjà.
Vous demande si de convoquer le conseil d'administration pour élire un nouveau président et le faire de suite. Dès que vous avez le nom, vous nous le faites savoir. La mort de votre cher président restera secrète jusqu'à ce que la nouvelle de votre nouveau président sera sue. Allez, et faites vite.
Le préfet de police dit à la mère et au fils de garder secret la mort du père pour la France. Des policiers en civil dans la matinée viennent chercher Nathalie.
Elle, nous avons reçu l'ordre, c'est de vous mettre aux arrêts.
Elle ne sait rien.
Pourquoi? Parce que votre mère a tué Monsieur Framblant. Venez, mademoiselle.
Elle les suit. Alexis a appris tout ça. Il est très triste pour Madame Poncet, extrêmement triste. Il trouve c'est qu'elle est une victime plutôt qu'une criminelle. Il est triste aussi pour Nathalie. Il pense que tout ça, c'est un coup monté. Pauvre Madame Poncet, pauvre Nathalie. Amène dans une maison isolée à la campagne au fond d'un parc. Des chiens de garde policiers. Elle aura tout ce qu'il lui faut. Harold convoque par internet tous les membres du conseil d'administration pour une réunion extraordinaire très urgente. Il fait préparer la salle de réunion, les chambres pour les gens qui viennent de loin, restaurants, etc. Personne au siège ne connaît la nouvelle, on pense que le président est en voyage. Les membres du conseil d'administration sont surpris, sauf Alexis qui lui a appris la nouvelle.
Ils sont obligés d'y aller.
Il va commencer à arriver à la réunion.
Certains viennent en avion privé.
Ils pensent que c'est un coup monté, tout ça. Il est furieux contre Gilbert, contre les Framblants, mais ne fera rien. Ne peut rien faire parce qu'il n'est rien, ou très peu, par rapport à l'intérieur du groupe. Il est important, en dehors du groupe, mais à l'intérieur du groupe, il est peu de choses.
Ensuite, ils sont amenés en voiture jusqu'au siège. Alexis a appris la nouvelle de tout ça grâce à la domestique de Madame Poncet qui l'a prévenue, parce qu'elle aussi est bouleversée.
Il y a parmi eux le président du
groupe. Et Julien aussi.
Pontois, celui du groupe Jeune Tout, celui du groupe Diap, Harold qui représente le président à tous. Il y a quelques journalistes présidents de quelques filiales. Bien entendu, celui qui représente la famille du défunt, c'est Gilbert. Personne ne sait rien et la réunion se passe dans une salle close, sans téléphone ni rien. Personne ne peut quitter la salle avant la fin de la séance.
Alexis, il y est
close
à cette réunion.
Il n'y a que le conseil qui est dans la salle, même pas une secrétaire qui préside.
Gilbert, mais il ne dira rien, Alexis.
Harold annonce la nouvelle terrible et dit ce que veut le président. Nous devons élire un nouveau président de suite. Le temps presse. Je vous demande d'élire Gilbert Framblanc, le fils de notre défunt président. Gilbert se lève et crie « Non, je ne le veux pas !» Tous le regardent. Harold lui dit « Vous ne pouvez pas refuser. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la présidence. » Le groupe va se dissoudre autrement. Le premier groupe de France, du monde, ne sera plus. Ce sera terrible. La fin de la France. Les Américains vont sauter sur l'occasion pour s'emparer du monde. Hitler envahira la France. Et l'Amérique aura le monopole de tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Et pensez à votre mère, qui est déjà dans le chagrin. Votre décision va décider du sort de la France et du monde occidental et de millions de gens. L'avenir de tous est entre vos mains. Si vous dites non, c'est la fin de tous et de vous. Père réfléchit et dit, je ne suis pas digne d'un tel pouvoir. Pour moi, pourquoi me mettre entre les mains à moi, un rien, un humble, le sort du monde? Harold lui dit, on ne choisit pas sa destinée, mais lorsqu'il le faut être noble et se sacrifier à ce dont on a été élu. Dites oui, je vous en conjure, pensez à la misère que vous allez éviter. Ferme les yeux et vois des milliers de miséreux dans les rues. Ils crient « Oui !» et pleurent la fin de sa vie. Car il sait qu'il n'est qu'un symbole. S'assoit. Les autres applaudissent. Il sait qu'il n'est plus qu'un symbole. On a fait le compte-rendu de la réunion, donné des photocopies au président de la République de suite. Le président de la République annonce la mort de Maurice Framblanc à ses ministres, qu'il annonce À la nation. Le corps est redonné à la famille. Il y aura des funérailles grandioses. Le monde apprend la mort de Maurice. Une mort brutale causée par la folie d'une femme. Et en même temps la présidence de Gilbert. Les Américains ne bronchent pas, il est trop tard. Le groupe a un président. Et il continuera. Charlotte est heureuse que Gilbert ait repris la place de son père. Les funérailles ont lieu. Une messe à Notre-Dame de Paris. Ce sont presque des funérailles nationales. Il y a des chefs d'État de différents pays, dont bien entendu la France, l'Amérique, etc. Des ministres, tous leurs ministres, un représentant du pape, des industriels. Il a été enterré dans un caveau au Père Lachaise. Officiellement, il a été tué par une folle au cerveau dérangé. Et on a clos l'affaire. Gilbert vit avec sa mère pour la consoler. Sa mère vit toute seule dans sa chambre, a du remords. Elle pense à la lettre qu'elle a envoyée à la mère de Nathalie et se dit que c'est sûrement cette lettre qui a tué son mari. Elle se jure solennellement de se punir. Après réflexion, elle décide c'est de rentrer chez les religieuses, de tout laisser à son fils. Et le dit un matin, en prenant son petit déjeuner dans le salon. Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « C'est mieux. J'ai plus rien à faire ici. Je te laisse tout. » Il ne dit rien. « J'ai décidé. Je partirai dans un mois. » Gilbert demande à Julien d'avoir des nouvelles de Nathalie, de se renseigner. Julien va chez elle, se renseigne. La bonne lui dit : ça fait des mois qu'elle a disparu. La police ne dit rien. Julien le dit à Gilbert. Gilbert lui dit : je vais m'en occuper. Gilbert a beaucoup de travail. Il apprend à être président. Parole des juristes sont constamment près de lui à l'aider. Il passe beaucoup d'heures à travailler. Il fait son travail consciencieusement avec résignation. Et dans le bureau de son père, il pense souvent à lui. Sa mère a fait ses valises. Elle lui a dit au revoir. Elle est partie. Sans rien, elle lui laisse tout. Elle lui a dit : ne m'envoie rien. Je n'ai besoin de rien. Il lui dit : mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire seul ? Elle lui dit : tu as ton travail. Chacun ses choses. Et elle est partie en voiture. Qui va l'amener en train. Elle n'a pas voulu que Gilbert l'accompagne. Gilbert est seul. Les
Les jours passent. Cyber a beaucoup de dossiers à s'occuper. Le bâtiment, la rénovation, la recherche ADN, mutants, chimères, agroalimentation, vieillissement, robotisation, ordinateur, médias, etc., etc. Heureusement qu'Harold est là pour l'aider. Ils s'entendent bien tous les deux. Pour se détendre le soir, il passe la soirée seul avec son ami Julien. Ils parlent tous deux d'un autre temps où ils étaient plus libres et heureux. Et les jours passent. Une nuit. Une nuit, une voiture s'est arrêtée devant le laboratoire Jeune Tout Pontois. En sort un homme habillé de noir. Il saute le mur, va jusqu'au bâtiment et là il s'arrête devant une fenêtre dont les volets n'ont pas été fermés, exprès pour lui. La fenêtre est au premier étage. Il y a à terre, comme par hasard, une échelle. Il la prend, monte à l'échelle et, pour entrer, brise le verre avec une masse en cuivre de 500 grammes. Il ouvre la fenêtre et saute à l'intérieur. C'est une pièce de recherche. Il éclaire avec une lampe de poche. Il se dirige vers un coffre. Un coffre blanc. Un réfrigérateur. Il fait le code pour l'ouvrir. Il y a dedans le coffre en métal fermé, des bouteilles. Des bouteilles, des petites bouteilles en métal avec des noms sur chaque bouteille. Il en prend deux. Ferme le coffre. Et sort de la pièce. En passant par la fenêtre. Il retourne à la voiture, fait le mur,
retourne vers la voiture, entre dans la voiture et la met en route. Il arrive à Lyon au petit matin, il fait pas vraiment jour. L'homme va arrêter sa voiture devant une maison qui se trouve au boulevard des Belges. Il sort de voiture. Et sonne au portail.
Oui,
c'est moi. Entrez. Il clique du portail. L'homme va vers la maison. Et sonne. La porte s'est ouverte. Un domestique en robe de chambre bordeaux lui dit
« Entrez, monsieur vous attend. »
L'homme entre.
« Suivez-moi. »
Et le domestique le fait monter à l'étage. Arrivé à l'étage, il longe un couloir. Domestique frappe à une porte.
Entrez.
Il entre. L'homme entre. C'est une chambre. Dans son lit, monsieur de Jean-Ju. L'homme s'avance vers lui et lui dit. Voici. Il lui tend les deux bouteilles en métal. Jean-Jules les prend et dit
« Ils vont faire une erreur monumentale. »
Les deux bouteilles contiennent dans l'une l'ADN des Hautebeurs et l'autre celui de Gilbert.
Thank you.
Le soir, Gilbert, après son travail, lâchait Julien à pied. Ça le détend. Comme il est tard, les rues sont presque désertes. Ça lui permet de penser. Il pense à Nathalie. Il se dit que demain, il ira voir le préfet de police pour avoir de ses nouvelles. Il ne lui en veut pas, ni à sa mère. Elle était folle. On ne peut pas en vouloir à des fous. Il se dit qu'il se mariera avec elle. Il prendra avec lui comme bras droit Julien. Et comme ça, il sera peut-être heureux. En pensant à tout ça, une petite flamme s'allume dans son corps. Il se sent heureux, heureux. Depuis longtemps, qu'il y a, qu'il est dans cette vie, il se sentit peut-être pas autant heureux, mais envie de rire, de sauter, d'être jeune, de vivre, de vivre, de vivre. Il crie en lui-même, je veux être heureux. Je veux être heureux. Il sent un choc en plein dans le front. Et le trou noir. Il est tombé en arrière. Il vient de recevoir une balle dans le front. S'avance vers lui une femme en noir. Elle met le revolver dans son sac. Se penche vers lui. Pardonne-moi, mon petit, mais il le fallait. Tu n'es pas l'élu. On s'est trompé. Elle le soulève, le prend dans ses bras et le mène à la voiture. Le chauffeur lui ouvre la portière arrière. Elle dépose le corps sur la banquette, s'assoit à côté de lui et le prend dans ses bras. Et le chauffeur rentre dans la voiture et la met en route. Et disparaît dans la nuit. Au même instant, Monsieur de Janju, au lac de Montrion, lance en même temps les beaux bouteilles dans des haines, qui, au même moment, une main de pierre. Est sortie du lac, les attrapée au vol, et la main s'est enfoncée dans le lac en même temps. La glace s'est refermée sur la surface du lac.
Lyon, dans la ville qui est dans les sous-sols, l'immense main arrête de déverser son fluide de vie, l'ADN. Un vent glacial court le monde. Et paralyse tout, tout, hommes, végétaux, animaux, paralyse tout et fait tout tomber sur son passage. Paralyse en givrant et glaçant tout. Cela crée l'horreur sur Terre, des explosions, des morts, tout est paralysé. plus rien ne vit après son passage. Tout est paralysé. Tout n'est que ruine, givré. Toutes les ruines sont recouvertes de givre. Et de cadavres. Givré. Ainsi se termine cette histoire. Si vous voulez en savoir plus, il faut c'est connaître Violence et Crépuscule, L'Élu, La Spirale de Verre. Et si vous voulez encore aller plus loin, plus profondément dans ces histoires, il faut aller jusqu'à L'Au-delà du commun et Les Illusionnistes. J'ai fini d'enregistrer en analogique le 31 octobre 2001. J'ai fini d'enregistrer en numérique le 13 novembre 2001 à 20h45. Au début, j'étais pas très satisfait de mon histoire et puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'histoire, je me suis attaché à mes personnages, je les ai trouvés très intéressants et je me suis mis à aimer cette histoire. Je suis extrêmement attaché à tous mes personnages parce que je vis plus avec mes personnages qu'avec des gens réels. Et pour moi, ils sont très très importants. Et lorsque mes personnages pleurent, je pleure pour de vrai, moi aussi. C'est comme ça. La prochaine histoire que je vais écrire, ce sera peut-être une histoire d'un jeune homme qui vit un petit peu, qui a un caractère un peu, comment dire, comme un bébé, comme un enfant. Il est très attachant. Et il est attiré par les femmes mûres et les femmes mûres l'attirent. Il est attiré par lui. Et il peut faire toutes les bêtises qu'il veut sans qu'on lui en veuille. Bien entendu, cette personne très attachante peut arriver à faire des bêtises très très importantes. Enfin, nous verrons ça plus tard. Je tenais à dire, c'est que cette histoire, je l'ai fini de l'enregistrer en 2001. Mais elle sera peut-être programmée pour la première fois, peut-être dans 7 ou 8 ans. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'émissions avant. Je voulais dire aussi une chose, c'est que je m'excusais pour ce qui est du temps. J'ai pris beaucoup plus de temps pour le vendredi, parce que la dernière partie de l'histoire était plus longue, et je ne pouvais pas faire la couper. Voilà, j'espère c'est que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé, et j'ai très apprécié Alexis et Mathieu, que j'ai trouvé très attachante. Et c'est bien pourquoi j'ai mis la fin de l'élu dans la fin de la plante du diable, parce que ça se passe à la même époque et que on rencontre les mêmes personnages. Au revoir.